Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ce soir, je fais plaisir à des auditeurs aussi, parce que on accueille un gars à qui je parle depuis des années, un gars que je lis depuis des années, un ancien animateur de radio que j'écoutais régulièrement. C'est l'ufologue, auteur, chercheur Jean Cazot, qui est aussi chroniqueur une fois de temps en temps dans Mars au soir. Merci d'être là, Jean Cazot.
C'est mon plaisir.
Un ufologue, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, un ufologue?
Des UFO.
Des UFO.
Ah, ben, ufologue, ça vient du mot américain Unidentified Flying Object, quoique ça existe presque plus maintenant, c'est UAP qu'ils appellent. Ben, c'est ça, c'est le phénomène des ovnis sur lequel je travaille depuis, mon Dieu, 1966, fait que s'il y a des jeunes à l'écoute qui ne savent pas compter, là, il y a des calculettes, ça donne à peu près 57 ans, ça, 58 ans à peu près.
Exact. Est-ce qu'il en reste beaucoup des ufologues qui font ça de manière professionnelle, comme toi tu l'as fait pendant des décennies?
Ouais, il en reste pas une tonne. Il en reste pas beaucoup. Au Québec, peut-être qu'il y a un petit groupe, là, il y a l'Association québécoise d'ufologie. Ils sont plusieurs dans ça, je sais pas, mais il n'y en a pas une tonne. Faut dire aussi qu'il n'y a pas une tonne d'observations qui sont rapportées. L'autre affaire aussi qui est importante à mentionner, c'est plus actif au Canada anglais. Ils sont plus nombreux aussi. Et là, je me suis ouvert une chaîne YouTube, là, et je vais présenter aussi, je fais des entrevues dans ça de 30 minutes, puis je présente des petites histoires. Là.
On va en parler d'ailleurs tantôt.
Mais je voulais juste dire ça pour te dire que je vais même inclure des entrevues en anglais, avec des sous-titres français, évidemment, parce que je vous dis, c'est pas tous les Québécois qui sont bilingues, puis des fois, ça va trop vite. Alors, je vais mettre des sous-titres français, ça, pour la compréhension. Mais ça vaut le coup, parce que l'ufologie, ça existe ailleurs qu'ici, hein, dans l'Ouest, dans le Midwest, et aussi dans l'Est, dans les Maritimes. Il y a des gros dossiers que les Québécois ignorent, connaissent pas, presque pas. Alors, je veux leur faire connaître ça, mais je veux pas le faire connaître par le gars qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Je veux aller chercher le spécialiste, le gars directement impliqué dans la recherche de ces dossiers-là. Alors, je vais le faire, des gars comme Chris Syme, puis des gars comme Chris Rotowski et compagnie. Bref, ça promet.
Il me reste alors deux questions. Je veux te poser ces questions-là avant qu'on passe sur d'autres choses. Mais tu sais, un ufologue, là, bon, il n'y a pas de formation qui se donne en ufologie. Il n'y a pas d'entreprise qui embauche un ufologue. Est-ce que quelqu'un qui veut devenir un jour un ufologue peut espérer être capable de vivre de ça ou aujourd'hui, en 2024?
Non, ça va être
une passion que tu peux réaliser de façon professionnelle.
Ouais, non, c'est pas enseigné nulle part. Je pense pas que ça va l'être non plus. C'est de l'autodidactie totale et absolue. Alors, et ça prend énormément de temps à devenir ufologue. À devenir bullshitter, ça c'est pas long, 5 minutes. Mais à devenir ufologue, un vrai, là. Ça demande du travail, parce que tu te dois, étant donné la nature même du phénomène qui est furtif, qui est vivant, c'est intelligent, il y a quelque chose derrière ça, là. C'est pas des petites lumières, là. Il y a quelque chose derrière ça. Tu te dois, en tant qu'individu, d'être familier avec un paquet de disciplines sans les maîtriser, là. Tu sais, je te dis pas de faire un doctorat dans chacune de ces disciplines-là, mais au moins de savoir de quoi tu parles. Tu sais, alors ça touche l'astronomie, ça touche la météo, ça touche l'optique, ça touche l'aviation, ça touche ci, ça touche tout un paquet d'affaires. Moi, durant toutes ces années-là, chaque fois qu'un témoin me rapportait quelque chose et que j'enquêtais là-dessus, là, moi, ça me livrait mes faiblesses, ça me livrait mes manques, mes lacunes. Je me disais, ouais, mais tu sais, alors là, j'allais m'informer, je parlais à des gars à l'université, je parlais à des spécialistes, puis là, ils me disaient, Je me rappelle, à un moment donné, je regardais un dossier où la femme s'était fait comme enlever, puis on y avait rentré quelque chose dans le nombril. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, ça se fait-tu, cette pratique-là? Puis là, je parle à un chirurgien, puis qui me dit, ben, c'est une pratique qu'on fait. Puis, alors, tu sais, à force de m'éduquer, si je puis dire, puis de travailler dans ce sens-là, j'ai développé des connaissances dans plusieurs domaines qui m'ont permis par la suite d'être un meilleur enquêteur, si tu veux, parce que là, je pouvais appréhender mes questions. Là, quand j'entendais le gars me parler ou la fille me raconter, là, tout de suite, j'avais la question à poser pour savoir si ce ne serait pas ça par hasard, tu sais. La pareidolie, regarde, ça finit plus, il y en a. J'ai été obligé de faire des études. Quand je dis des études, je ne dis pas là, m'inscrire à un cours. Je parle faire des études par moi-même, aller chercher l'information par moi-même, l'ivresque ou autrement, pour répondre à ça. Alors, en psychologie, en psychiatrie, en neurochirurgie, dans tous les domaines que tu peux imaginer, c'est très holistique, l'ufologie, pour au moins être capable d'anticiper, comme je te dis, les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Alors, c'est énormément de travail, c'est le travail d'une vie. Alors moi, quand un petit cul de 22 ans m'écrit et qui me dit « moi, je suis ufologue, moi, je pense que ma théorie est meilleure que la tienne », on va prendre un bonbon, puis quand tu seras réveillé, tu me le diras.
Mais t'ostines-tu encore à l'âge que t'as, Jean?
Pardon?
T'ostines-tu encore à l'âge que t'as?
Si je m'ostine?
Ouais.
Je fais que ça. C'est moi qui ai raison.
Ben oui.
C'est moi qui ai raison. Exact. Tu penses que tu m'as laissé gagner?
Oui. Puis tu me parlais d'ufologie tantôt, tu me parlais de cas extrêmement intéressants dans certains secteurs. Pourquoi on parle toujours de certains secteurs? Pourquoi c'est pas généralisé, ces cas-là? Pourquoi, exemple, au Mexique, il y a plusieurs observations versus Beauport, où c'est un peu plus relax?
Ah, ça, c'est le syndrome de high grade. Connais-tu ça?
Non, mais tu vas me l'apprendre.
Il est trop jeune. Il est trop jeune. Tu connais pas ça?
Le syndrome de high grade.
Ouais, les saucisses.
Ouais, ouais, ça, je le sais, les saucisses, mais le syndrome, c'est quoi?
Ben, c'est ça, les saucisses high grade. Plus on en mange, plus on en. C'est quoi, non? Plus ils sont meilleurs, plus on en mange, plus on en mange, plus ils sont meilleurs. C'est quelque chose du genre. Hein? C'était ça le slogan des saucisses high grade?
Je sais pas.
C'est bon, hein, parce que c'est quelque chose du genre. Mais en d'autres termes, il faut faire une distinction entre dire il y a plus d'ovnis au Mexique qu'au Canada ou il y a plus de Mexicains qui rapportent que de Canadiens les rapportent. C'est ça la différence. C'est ça. Est-ce que c'est parce que les médias mexicains en parlent puis les médias québécois s'en foutent? Est-ce que c'est parce que il y a beaucoup d'ufologues au Mexique, puis il n'y en a pas un maudit au Canada, c'est là qu'est le problème. Alors, moi, je peux te dire que le Québec est peut-être la terre ufologique la plus infertile qui soit. Parce que, un, il n'y a pas une tonne d'observations, parce qu'il n'y a pas une tonne de monde non plus. Je veux dire, on est quand même 8 millions, alors qu'en France, on est 80 millions. Alors, eux autres, il y a 80 millions de personnes qui ont les yeux dans le ciel des fois. T'sais, nous autres, ben, coudonc, t'sais. Ensuite, deuxièmement, nos médias sont très réfractaires à rapporter ce genre d'observations-là. Ils ne veulent pas toucher à ça. Je le sais, ça, je le sais, garde. Je vais te le dire, là. Moi, je veux dire, hein, je pense, Denis Lévesque est peut-être le seul animateur de télé au Québec qui a donné du temps d'antenne à ce phénomène-là en m'invitant assez régulièrement.
Mais c'est grâce à nos...
C'est le seul.
Ouais. Mais tu sais, la raison pour laquelle moi, je t'invite régulièrement, c'est parce que je suis un gars curieux, moi. Tu comprends? Je ferme pas la porte à rien. Quand j'entends OVNI, moi, je vois pas rapidement un petit bonhomme vert qui vient d'ailleurs. Je vois un objet volant non identifié. OVNI, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Puis un Jean Cazot qui vient me jaser, qui m'apprend des trucs, qui me parle de ses enquêtes, qui me parle de ses livres, qui me parle de sa nouvelle chaîne YouTube, moi, ça m'intéresse. Puis, tu sais, j'ai pas grand-chose en commun avec Denis Lévesque, mais on est du même type. T'sais. Moi, je juge pas les gens qui s'intéressent à ça. Je suis très ouvert. Seul problème, c'est que je vais sacrer un peu. Je vois le verre, Jean. Moi, il m'arrive jamais rien. Je vois jamais rien. Puis bon Dieu que j'aimerais ça que ça m'arrive.
Ah oui, mais welcome to the club de ceux qui ne voient jamais rien, c'est la majorité.
Ouais.
Non, mais je veux dire, regarde, c'est comme ça. Mais juste un commentaire en passant sur ce que tu viens de dire. Je parlais de Denis Lévesque. Tu m'as interrompu, j'allais dire. Et dans la radio, les seuls qui l'ont fait, autant que Denis a pu le faire à la télé, c'est Mario Tremblay, qui était à Choix. Et plus tard, ça a été toi, Yannick Marceau, qui l'a remplacé. Là, maintenant, tu es rendu à Boulevard. Et on suit comme ça. Mario, je l'ai perdu dans brume, mais toi, tu es resté. Alors, c'est les deux seuls animateurs de radio qui ont aimé en parler, qui ont accepté d'en parler. Puis Denis Lévesque. Jeune, quand j'étais à la SRPM, donc dans les années 60-70, c'est une autre histoire. Là, c'est différent. Les journalistes étaient fascinés par le fait qu'un petit gars de 17 ans donnait des conférences à l'université, puis partout, puis ainsi de suite, puis le monde courait pour aller l'entendre. Il n'en revenait pas. Alors là, j'ai été invité partout. J'ai été invité dans toutes les stations de radio. À ce moment-là, j'étais à Québec. Alors, je les ai toutes faites. Je les ai toutes faites, toute la gang. La télé, c'est pareil. Même que Mandé, Radio-Canada, puis Télé Capitale, ça s'appelait, se sont chicanés pour m'avoir, tu sais. Alors, ça marchait fort dans ce temps-là. Mais là, je te parle des années 70. Puis à un moment donné, pouf, ça a tombé. Tout s'est arrêté. Même le soleil de l'époque, le Journal de Québec aussi embarquait. Puis il jouait le jeu, puis on m'appelait, puis je travaillais le soir, je recevais des appels de la tour de contrôle de l'ancienne Lorette qui me disait, « Monsieur Cazot, on a un cas pour vous, voici le gars, il s'appelle un tel. » Je l'appelais, puis après ça, j'appelais le journaliste Cochon au Soleil, je me souviens encore de lui. Il y en avait un autre au Journal de Québec, je l'appelais, je lui donnais ça, il passait ça dans les nouvelles le lendemain. Alors, tu sais, c'était une contribution médiatique fantastique. Mais ça, c'est dans les années, fin des années 60 et 70. Ça s'est arrêté, là, vers 75-76, à un moment donné, il y a eu comme, tu sais, le 10 s'est arrêté. Alors, ça a toujours bien été. Mais il faut dire que depuis 2010, que là, ça a été, comme je te dis... la télévision, puis la radio avec toi, puis Marc. Ouais.
Mais c'est important d'être curieux, tu sais, dans toutes les sphères de notre vie. Enfin, moi, la semaine passée, j'étais sur un bateau de croisière. Je vais en profiter pour plugger ça avec toi, parce que je sais que tu es un grand voyageur, mais moi, j'ai pas toujours les moyens. Fait que quand je voyage, j'en profite pour le dire le plus souvent possible pour essayer de rendre des gars comme toi jaloux un peu. Mais je jasais avec une gang, puis c'était des Espagnols. Puis les Espagnols, c'était des Mexicains qui parlaient en espagnol, puis après ça, ils ont accepté de switcher en anglais pour jaser avec moi, parce que je comprenais absolument rien de ce qu'ils disaient, et ils parlaient des croyances. Ils parlaient de, tu sais, c'est des gens qui sont un peu plus religieux que nous autres en haut, là, les Nord-Américains, oui. Puis oui. Je trouvais ça intéressant de les entendre parler de leurs croyances, puis eux autres, ils sont encore sur le Dieu de la Bible et tout ça, puis à un moment donné, ils m'ont posé la question, tu sais, toi, tu crois-tu en Dieu? Hey, c'est moi, j'étais en vacances dans une piscine sur le dessus d'un bateau de croiseur. Il me dit, toi, tu crois-tu en Dieu? Je dis, mais, tu sais, moi, j'ai fait plusieurs lectures là-dessus parce que j'ai toujours eu une certaine curiosité. Puis, je sais pas si Baruch Spinoza t'a dit quelque chose, mais s'il y a un Dieu qui existe, c'est pas le Dieu tel qu'il nous a été enseigné à l'école, tu sais, à mes yeux, à moi. C'est plus un Dieu du type de la théorie de Spinoza qui dit, ben, Dieu, on sait pas c'est quoi, mais il y a un impact sur tout l'environnement, sur tout ce qui nous entoure, sur l'espace et tout ça. J'ai plus une tendance, moi, à croire au Dieu de Spinoza qu'au Dieu qu'on nous a enseigné dans la Bible. Pis...
Tu m'impressionnes, tu as lu Spinoza, c'est bien.
Ouais, je sais, mais des fois, je cache cette facette-là de moi parce que c'est... J'essaie de garder la facette clown. C'est toujours plus vendeur.
Parce que là, si tu dis ça à certains jeunes que tu lis Spinoza, ils vont te demander dans quelle équipe ils jouent, là.
Spinoza, écoute, il faudrait revenir, je pense, c'est en 16, fin 1600, là, à peu près 1600.
Ah ouais, 1600. Ah ouais, ah ouais. Non, c'est une belle. C'est le panthéisme d'une certaine façon. Hein, que le panthéisme de Spinoza, ça, c'est un auteur que j'ai lu et tant d'autres aussi qui m'ont aidé à me faire forger une opinion. Mais dis-moi non, avant là, d'aller plus loin, là, tu m'agaces. Là. C'est quel bateau est où ça?
NCL Viva, mon ami.
Ah, c'est pas une ligue bien connue, ça.
Non, mais quand tu vas aller voir sur YouTube, parce que t'es un gars de YouTube maintenant, Jean Cazot sur YouTube, qui l'eût cru, mais si tu vas sur YouTube, tu tapes le NCL Viva, tu vas voir que c'est un des plus beaux bateaux qui a jamais été construit. Une piste de course de go-kart, des glissades comme on peut voir au village vacances Valcartier, une multitude de restaurants, des pistes pour d'hébertisme, pour courir et tout ça, c'est plaisant.
Ah ben, non, je le connais pas. Je sais que le dernier qui est sorti, c'est Icon of the Sea, Royal Caribbean. Ça, c'est le plus immense, le plus gros, le plus riche, le plus que tu voudras au monde. Mais ça peut pas être celui-là sur lequel tu étais parce que il a pas commencé. Il est pas, je pense, son maiden voyage va se faire dans une semaine ou deux.
Mais c'est le NCL Viva, moi j'ai adoré. Mais tout ça pour dire, tu sais, pour revenir, que c'est important d'être curieux dans la vie puis de rester ouvert. Tu sais, même si ça va au-delà de nos croyances, ça se peut qu'il y ait des choses qui existent à l'extérieur qu'on ne connaît pas encore. La preuve étant, quand on a utilisé le mot OVNI tantôt, je suis pas mal certain que tout le monde a flippé sur des bonhommes verts, tandis que pour moi, OVNI, c'est un objet volant non identifié. Et à ça, je vais te poser ma prochaine question, Jean, si tu le veux bien. Oui. Est-ce que ici, supposons qu'on voit un drone dans le ciel, comme on a connaissance de ces objets-là, on peut dire tout de suite, ah, ben ça, c'est un drone. Une lumière verte, lumière rouge, ça vole dans le ciel, ouais, c'est un drone qui est contrôlé. Mais si ce drone-là se ramasse en Amérique du Sud, puis eux, ben, ils n'envoient pas ben des drones dans le secteur, ça pourrait être considéré comme un OVNI, un objet volant non identifié, Jean?
Oh, peut-être, je te dirais peut-être, je t'aurais dit ça il y a 15-20 ans, là, mais plus maintenant, parce que le drone est rendu un phénomène universel, un phénomène connu, parce que en Amérique du Sud, même dans les favelas, ils ont du Wi-Fi, puis ils ont des téléphones intelligents. Alors, ils crèvent de faim, ils n'ont rien sur le dos, ils vivent dans des cabanes de tôle, mais fatigue-toi pas. Ils sont branchés sur le web. Alors, ça, c'est de nos jours maintenant, tout ça est connu. Faut pas non plus en donner trop aux drones. Un drone, c'est bien beau, mais il y a des limites à ça. Et de toute façon, moi, je ne suis plus dans l'ufologie ponctuelle. C'est-à-dire que je ne fais plus d'enquête sur ce qu'on peut voir de nos jours, depuis quelques années. J'ai pris ma retraite du terrain parce que je me dis tout ce que j'ai ramassé comme information dans les dernières 57 ans, si ça suffit pas, c'est pas 2 ans de plus qui vont changer quelque chose. Alors, il y a assez de matériel accumulé par les ufologues depuis les années 40 dans le monde entier, avec des millions et des millions et des millions d'observations, que s'il y a encore du monde qui zozote là-dessus, ben, coudon, ils vont zozoter pour le restant de leur jour parce qu'il n'y a rien à faire. Et de toute façon, ma job, ce n'est pas de convaincre, c'est de partager. Alors, si quelqu'un ne veut pas de mon biscuit, ben, coudon, qu'il aille ailleurs. Moi, je l'offre, il n'en veut pas, il n'en veut pas, c'est tout. Et les drones... C'est chiant, les drones, parce que ça vient compliquer un peu le travail des ufologues qui, eux, continuent d'être sur le terrain. Parce qu'il y en a différentes sortes. On ne parlera pas des drones militaires, les drones chinois, puis ces affaires-là. Ça, c'est comme des gros avions. Là. C'est dans le ciel à 100 000 pieds d'altitude. Habituellement, c'est là qu'ils sont, parce que l'être humain ne peut pas supporter d'être à 100 000 pieds d'altitude, à moins d'être habillé comme un astronaute. Là. Alors, il n'y a pas d'avions qui vont là, mais les drones y vont, parce qu'ils sont en sécurité, ils se sentent en sécurité. Là. Alors, ils voyagent à des vitesses de malade, et on ne les voit pas, on ne les voit jamais, sauf les autres pilotes qui, eux, sont dans le ciel et qui vont les voir. Et les identifie assez facilement, surtout les Chinois, parce que, je veux dire, sont caractérisés par différentes questions qu'eux autres savent entre eux. Mais le drone ne me tente pas. Ce qui m'a tanné beaucoup, moi, en tant qu'ufologue, c'est l'arrivée du numérique. Moi, quand le numérique est arrivé, moi qui travaillais avec l'argentique, alors quand un gars me disait, « Monsieur Cazot, j'ai des photos d'OVNI à vous envoyer », je disais toujours, « Envoie-moi le négatif. » Puis si tu ne m'envoies pas le négatif, envoie-moi rien. Parce que moi, quand je voulais faire une authentification d'une photo, je devais travailler avec le négatif. Parce que le négatif révèle, la plupart du temps, tous les petits trucages, les petites bebelles. Autrement dit, le gars qui prend un fil de pêche, là, puis qui pogne une bebelle en métal, puis il fait swinguer ça devant sa fenêtre, là, puis il prend une photo, là. J'en ai eu de ça. Mais le négatif révèle le fil. T'sais? Tu vois le fil. Alors, ça, ils ne s'attendaient pas à ça. Et j'y retourne, puis j'y donne la marde. Mais l'argentique, on pouvait faire ça.
Oui.
Je pouvais même le confier à des spécialistes de la photo. J'en avais dans le temps, dans mes organes. J'en avais un dans le temps. Puis, spécialiste de la photo m'a dit, là, quand tu donnes un négatif, là, il envoie des affaires. T'sais? Alors, quand le numérique est arrivé, ça a tout scrappé ça. Ça a mis un terme à tout ça parce que tu peux faire n'importe quoi avec ça. Et plus ça va, pire c'est. Je regardais une annonce à la télé hier, le nouveau 5G. Ils ont dit Christine, non, les marques de téléphone, dans ce temps, je ne sais plus lequel. Là. Mais tu changes la couleur du ciel, tu enlèves le monde qui sont dans le chemin. Tu prends une photo de ta femme, là, puis il y a trop de monde, ben, t'es enlèves.
C'est Photoshop inclus.
Hein?
Photoshop inclus.
Ouais, c'est ça, quelque chose du genre, tu sais. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Moi, je reçois toutes sortes de cochonneries, là, que je reçois qu'on m'envoie, là, sur mon Messenger. Je reçois ça à tonne. Ah, regardez ça, M. Cazot, regardez ça, M. Cazot. Tu sais, je regarde plus. Je perds plus de temps à regarder ça parce que le trucage, la falsification de l'image est devenue tellement facile et c'est plus par des professionnels, des gars qui ont fait du cinéma. Là. C'est n'importe un petit gars de 14 ans, plein de boutons, qui n'a pas de vie. Ben, coudonc, il est dans son sous-sol, puis il fait des niaiseries, puis il envoie ça à tout le monde, puis il trouve ça bien drôle, tu sais. Mais moi, ça ne m'amuse pas, alors je ne les regarde pas, je ne m'occupe pas de ça, je n'ai pas de temps à perdre. Alors, je n'en diffuse pas non plus. Je ne diffuse pas ces vidéos-là. Parce que plus ça va, plus elles sont parfaites. Elles sont excellentes, elles sont extraordinaires. Tu peux faire ce que tu veux, puis tu n'as même pas besoin de talent. T'sais? Alors, moi, ça a fait mal à l'ufologie. Évidemment, le numérique fait mal à l'ufologie. Et tous les cons qui sont sur le web avec toute leur maladie mentale, étalés, mon chum, pas de pilule, let's go, c'est les murs, les planchers et les plafonds. Alors, l'ufologie est devenue presque impraticable, si tu veux mon avis.
Mais Jean, tu sais, t'as été à la radio longtemps, les gens t'écoutaient, puis veux pas, quand on fait de la radio à tous les jours, puis les gens, ils commencent à... Ah, ben, tu sais, Jean, c'est un gars qui est sincère, à qui je peux me confier et tout ça. Combien t'as rencontré de politiciens, de policiers, d'avocats qui ont dit, Jean, j'écoutais là, ton émission là, sur les ovnis, puis je peux-tu te raconter telle affaire qui m'est arrivée quand j'étais jeune? Blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, toi, tu leur disais, Jean Cazot, OK, mais Maître Martin, votre histoire m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en parler en ondes? Tout de suite, ces gens-là baquaient parce qu'ils disaient, non, je veux pas que mon nom sorte, parce que si mon nom sort, je suis un avocat, ça va être mal vu, je suis un policier, ça va être mal vu. T'en as rencontré combien de ces gens-là qui ont vécu des affaires, qui auraient pu t'aider dans ton travail, mais que parce qu'ils faisaient un métier qu'ils voulaient pas se faire juger, ben, ils te donnaient pas finalement le témoignage en ondes?
Alors, ma réponse est en duplex. C'est comme tout à l'heure, ce que je te disais, les médias dans les années 70 étaient très ouverts, respectueux même, parlaient de ce phénomène-là avec sérieux, avec rigueur, puis avec sérieux, et je leur retournais l'appareil. Et les témoins se nommaient. Les témoins se nommaient. Moi, je m'appelle Benoît Grégoire, je fais ça, puis j'ai vu ça, puis c'est ci, puis c'est ça, puis mais dans mes livres... Surtout quand tu regardes les premiers livres, le nom du témoin est tout le temps là. Il est là. Puis là, j'ai des histoires YouTube sur lesquelles je nomme le témoin parce qu'il s'est nommé en 68, ben je le nomme encore aujourd'hui, même s'il est décédé.
Ouais. Même en 90, alors, il y avait eu les ovnis à la place Bonaventure, des observations qui avaient été faites. Oui, il y avait des policiers qui avaient donné le nom. Là.
Les policiers ont donné leur nom. Alors, pour répondre à ta question, il y a eu une époque où des ingénieurs, des avocats, des médecins, pour répondre à ta question, sans nécessairement insister, ça leur faisait rien de dire que ce qu'ils avaient vu. Et je le faisais, sans nécessairement mentionner leur profession. Parce qu'ils me disaient, regarde, moi je m'appelle André Jolicoeur, André Jolicoeur, c'est le fait que je sois avocat, rien à foutre avec ce que j'ai vu, alors tu n'es pas obligé de le dire, tu sais. Alors, je le faisais. Aujourd'hui, de nos jours, même Monsieur Tout-le-Monde ne veut pas qu'on le nomme. Même s'il n'y a pas de réputation, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien qui pourrait lui nuire, il ne veut rien savoir, il ne veut pas se nommer. Ça a rendu ma tâche difficile à un moment donné pour aller chercher des gens qui auraient accepté de collaborer à publier leurs histoires dans une série de livres où j'insistais pour que la personne se nomme. Ça n'a pas été facile. J'en ai eu, mais je n'ai pas eu 5000. Alors, c'est difficile. Les gens aujourd'hui, avec raison, Yannick, avec raison, ne veulent pas s'identifier, certainement pas les gens qui ont quelque chose à perdre. Madame Gagné, qui est chez elle à la maison, a élevé ses enfants, puis elle ne travaille plus, puis son mari est à retraite. Bon, elle n'a pas grand-chose à perdre de se nommer. Des fois, elle va le faire. Mais que tu veux que tu n'as rien à perdre. Mais le gars qui a un gros commerce, une grosse entreprise, compétitive, la compétition est féroce, il ne veut pas s'afficher comme témoin d'OVNI parce que d'abord, les compétiteurs vont se moquer d'eux. Ensuite de ça, parce qu'il ne veut pas, il n'a pas envie de dealer avec cet aspect-là de son. Lui, ce qu'il a vu, il me le dit, il me fait confiance, je le rapporte, il est content de voir ça. Mais il n'a pas envie de recevoir des téléphones ou se faire écœurer ou se faire chier par des imbéciles. Et surtout par les trolls qui abondent sur le net et font chier tout ce qui bouge parce qu'ils n'ont pas de vie, ce monde-là. Alors forcément, ils essayent de s'en faire une. Et c'est ce qui fait que les témoins... Je ne leur en veux pas. Aujourd'hui, moi, je marche au pseudonyme dans 98% des cas parce que les gens ne veulent pas s'impliquer. Alors, ce que tu veux, je te dis, et encore plus, s'ils ont une carrière, soit commerciale ou autre, qui pourrait porter atteinte à leur... Il y en a qui craignent aussi l'opinion de leur employeur. Tu sais, il y a des employeurs imbéciles là, qui sont capables de dire, ben là, t'es allé dire, t'as vu des ovnis, là, je pense pas que ça va aider la compagnie, là, il faudrait que tu te retiennes, là. T'sais, ça, il y en a aussi des cartes de même.
Ouais. Est-ce que ça t'a surpris de voir des membres du Congrès discuter d'observations particulières aux États-Unis?
Oui, j'ai été surpris. Quand Scott Gray s'est présenté devant le Congrès, le directeur adjoint de la Naval Intelligence qui s'est présenté là devant le Congrès pour aller leur montrer un paquet de vidéos, puis après ça, les regarder d'en face, puis leur dire: Mesdames et messieurs du Congrès, we don't know shit about that. On ne sait pas ce que c'est. On n'en a aucune idée. Ils ne seraient pas allés se planter là si ça avait été des drones chinois. Comprends-tu? Il y a tout. Le gars, là, il est responsable de l'intelligence de renseignement de la marine américaine. Je pense qu'il y a le personnel nécessaire pour identifier ce que c'est sous tous les angles, de toutes les façons possibles. Alors, si ces gens-là sont venus revoir leur boss puis ont dit « Sorry, sir, but we don't know what it is », ben c'est qu'ils ne le savent pas. Puis si eux autres ne le savent pas, ben là, on est dans la merde, parce que ça veut dire que ça ne vient pas d'ici, c'est clair. C'est très clair. Et en plus, il est tellement sûr de son coup qu'il s'est levé un matin puis s'est dit « Moi, je m'en vais au Congrès et je le dis aux congressistes puis je ne le fais pas à huis clos. Je ne le fais pas à huis clos. » Les journalistes attitré au Congrès, était là. Alors, c'est un gros risque qu'il a pris Et il y a encore sa job. Alors, il faut croire que...
C'est surprenant de voir ce qui avait été montré. C'est des choses qui défient les lois de la physique. Là.
Ben oui. Écoute, ça a été dit. Ça n'a pas juste été montré. Ouais. Il y a des militaires qui ont dit « Cette chose-là ne se comporte pas... La cinétique de cette chose-là ne correspond à aucune loi physique connue en matière d'avion, d'avionnerie, d'ingénierie, d'aéronautique ou d'astronautique. Ça ne se peut pas, mais pourtant, c'est là, puis on le voit. Puis si ça a été capté par radar, c'est parce qu'il y a eu un retour. Tu n'auras pas de retour en envoyant ton faisceau radar sur un nuage. Tu sais, ou c'est une mauvaise idée, là. Ça ne revient pas, ça. Il faut que ce soit solide. Il faut que ce soit vraiment solide, métallique autant que possible. Parce que la voile d'un bateau, non, ça risque de passer au travers. Mais si ça revient, si l'écho revient, ben c'est que c'est du solide. Alors, le gars te le dit, là, en pleine face, là, c'est un spécialiste, le gars, ça fait 25 ans qu'il est au Pentagone, là. Il est dans l'aviation, puis il regarde ça, puis il dit, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Et pourtant, c'est là. Moi, je comprends pas. Je vais te dire une chose, Yannick, tu me parles de ça, là. Je vais te dire une chose.
T'es en train de te choquer, Jean. Là.
Hein?
T'es en train de te choquer, là.
De chuchoter.
De te choquer.
Oh, je suis toujours choqué.
OK.
Alors là, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait. Ça, je voudrais que quelqu'un me réponde à ça. Comment se fait-il que Scott Gray, qui, je le répète, est le directeur général adjoint de la Navy Intelligence, la CIA de la marine, si tu veux, comment se fait-il qu'au lendemain de cette présentation-là au Congrès des États-Unis, les talk shows américains le soir, les Tonight Show de ce monde, les morning shows de ce monde, ne l'ont pas agrippé pour l'emmener devant les caméras la soir-là puis l'inonder de questions? Êtes-vous sérieux? Vous ne savez pas ce que c'est, mais écoutez, on vous donne 740 milliards de budget par année, puis vous nous dites qu'avec tout cet argent-là, vous n'êtes pas foutu de nous dire c'est quoi ça? Comment ça se fait? Moi, j'aurais posé la maudite question si c'était venu à mon show. J'aurais posé cette question-là, juste celle-là. Le budget de la Défense nationale, M. Gray, c'est dans les 700 milliards par année. Et là, vous me dites qu'avec cet argent-là, vous n'êtes pas capable d'identifier la nature, l'origine des objets que vous avez montrés sur vidéo aux membres du Congrès américain. Est-ce que c'est bien ça? Vous ne le savez pas. Et là, j'aurais voulu qu'il y ait sa réponse. Mais on ne l'a pas, parce qu'il n'y a personne qui a posé la maudite question. Mm-hmm. Alors, je ne suis pas le journaliste le plus intelligent de la planète, là. C'est une question simple, ça.
Ben, c'est ça.
Pourquoi elle n'a pas été posée? Pourquoi?
C'est une très bonne question. Mais tu sais, pour les gens qui disent, c'est quoi qui défie les lois de la physique? Ben exemple, si vous avez déjà pris l'avion pour aller dans le sud, tout dépendant de quel côté vous êtes, là, l'avion va entre 800 km/h puis 1200 km/h. Mais l'avion ne peut pas faire un virage à 90 degrés rapide sinon, et se mettre sur le côté, sinon les ailes vont s'applaudir en haut. Ben ça défierait, si un avion était capable de faire ça défierait les lois de la physique. Ben il y a des objets qui ont été filmés par des pilotes qui défient les lois de la physique et c'est incompréhensible selon nos connaissances.
Ce qui est le plus remarquable dans les vidéos qui ont été montrées au Congrès, il y a ça, ce qu'on appelle, nous autres dans notre jargon, ben c'est les virages brusques, les virages brusques à 90 degrés. C'est ça, oui, t'as raison. Mais c'est pas ça, c'est la décélération brusque qui est encore pire. Ça, c'est l'avion, on prend ta voiture, puis roule à, mettons, 200 km/h, mettons, roule à 200 km/h, puis arrête, fais en sorte que le véhicule s'immobilise dans la seconde.
Tout le monde
dans
meurt.
Dans la seconde.
Tout le monde meurt.
Ben, non, c'est pas possible. Pas possible. Tu auras beau avoir les freins que tu veux. Ta voiture va quand même chirer sur un maudit, sur une centaine de pieds, si c'est pas plus, avant de s'immobiliser. Mais en plus, tout le monde à bord va être aplati quelque part. Mais imagine que tu peux le faire. Tu peux arrêter ta voiture à la seconde près. Tu as raison. Vous allez tous avoir l'air des pizzas. Hein? Bon. Alors ça, c'est impossible. On ne peut pas faire ça qu'un avion, d'autant plus que lui, il va bien plus vite qu'à 200 000 à l'heure, bien plus vite. Alors, c'est impossible. Ça, c'est la décélération, le virage brusque, puis un autre aussi. Un autre phénomène qui a été constaté, puis qui est impossible aussi. C'est le non-habillage d'une vitesse. Ça veut dire que là, c'est l'inverse. On sait tout, quand tu regardes les vidéos YouTube de chars qui sortent, là, puis qu'il y a des chars de vitesse, puis ils disent tout, il atteint 100 km/h en 0,6 secondes. Tu sais, des affaires de même, là? Bon, en 6 secondes, je pense que c'est des choses comme ça. Là, l'objet en question est immobile. Son accélération pour atteindre environ 12 000 milles à l'heure, ou 20 000 km à l'heure, est immédiate. Immédiate. C'est-à-dire, il est immobile, pouf! Il est disparu, il part à une vitesse de malade. C'est impossible.
Selon ce qu'on connaît.
Bien, selon ce qu'on connaît, puis selon ce qu'on voudrait. Même si on voulait, même si Boeing, non pas eux autres, sont assez dans la merde de ce temps-ci, même si Airbus ou n'importe quelle autre grosse compagnie de fabrication d'avions décidait, on va en faire un, là, il part de zéro, puis il va monter à 10 000 km/h en une seconde. Messieurs, attelez-vous, travaillez là-dessus. Il ne pourrait même pas y penser. Il y a rien, c'est impossible, parce que, oublie pas une chose, Yannick, 100% de nos modes de propulsion sont par poussée. C'est de la poussée. On pousse. Alors, t'as l'exhaust en arrière, c'est ça qui te pousse. Tu sais, le feu arrière sort en arrière du chasseur et le chasseur va donc s'avancer autant que le feu recule. C'est par réaction. C'est pour ça qu'on appelait ça avant des avions en réaction. C'est par réaction. C'est la même chose quand tu brûles ton essence. Il y a une explosion qui se fait dans le moteur, puis là, il y a une poussée qui se fait, puis qui active les roues. Alors, c'est toujours par poussée. Et il n'y a rien, il n'y a aucun moteur sur cette planète qui peut pousser sans habillage. L'habillage, c'est le temps que ça prend pour qu'il atteigne une certaine vitesse. Alors, il part, même les F-18, moi, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, la compétition entre une Mustang et une F-18, tu as déjà vu ça?
Non.
Ouais, c'est le fun à voir, ça. J'ai vu ça, moi, dans un show aérien, là, je pense que c'était à l'ancienne Lorette, je ne sais plus c'est où. Alors, tu as les F-18 qui décollent, et la Mustang est à côté, puis elle a les grosses Mustangs, là, les grosses Mustangs puissantes, là. La Mustang, elle part, et elle bat le F-18, dans le sens qu'elle arrive à atteindre le bout de la piste avant le F-18. La seule différence, c'est que la Mustang est fatiguée, est épuisée, elle ne peut pas aller plus vite que ça. Le F-18, lui, il fait juste commencer. Parce que quand il va atteindre son Mach 2, Mach 3, la Mustang elle est pas mal loin en arrière. Mais ça prend du temps avant que le F-18 atteigne cette vitesse-là. Ça, cette période-là, on appelle ça l'habillage. Alors, il y a un habillage qui peut durer 20, 25, 30 secondes, une minute. Ça prend un certain temps. C'est pareil comme quand tu vois les fusées décoller de la Floride qui s'en vont dans l'espace. Alors, tu regardes ça, puis là, ça lève tranquillement. J'ai vu ça, moi, quand j'étais là-bas, là, j'ai vu ça live. Là, tu sais, là, ça lève pas vite. T'as l'impression que ça va tomber, cette affaire-là. Ça n'a pas d'allure, ça avance pas. Tu sais. Là, il commence à pogner de la vitesse, puis il monte, puis il monte, puis il monte. Mais quand il va atteindre une certaine hauteur, là, il va filer à une vitesse hallucinante. Là, il va aller vite en maudit, surtout quand il va dépasser l'atmosphère, parce qu'il n'y aura plus de friction. Il va flyer la fusée en question. Alors, l'habillage, ben, c'est ça. C'est la durée que ça prend à partir du moment où les moteurs s'allument et que la fusée est rendue en hauteur. C'est l'habillage, ça. Si la fusée devait partir, elle est là, puis elle va swing! Oh! Là, il n'y a pas d'habillage. Ben ça n'existe pas. C'est impossible. C'est impossible parce que le moteur qui réussirait à faire ça, il faudrait qu'il soit tellement lourd que déjà là, il faudrait qu'il se il faudrait qu'il se propulse lui-même en plus de la charge qu'on lui impose.
Ouais.
Alors, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais.
Exact.
Ça veut donc dire que ces objets-là ne sont pas propulsés par des moteurs. Aussi simple que ça.
Oui. Jean, on va s'arrêter quelques secondes, si tu le veux bien. Je vais te laisser reprendre ton calme qu'on te connaît, ton calme naturel, ton calme légendaire. Puis on revient après la pause parce que je veux parler de ta fameuse chaîne YouTube maintenant qui prend de plus en plus de place là, sur YouTube. Je suis allé voir toutes tes vidéos. Je me dis, y arrêtes-tu Jean Cazot? On va en jaser tout de suite après la pause. Pour plus de détails sur Jean Cazot, c'est jeancazot.ca. C'est valide encore ton site Internet?
Oui.
OK, on arrête, puis on s'en jase après la pause.
Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin.
Boulevard 102.
Toujours un plaisir de lui parler. Monsieur Gilles Lehoulier, le maire de Lévis, est au bout du fil. Monsieur Lehoulier.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec l'ufologue, l'auteur, l'ex-animateur radio Jean Cazot qui est avec nous. Comment ça va, mon Jean?
Ça va très bien, ça va très bien. Je suis calme.
Est-ce que je ravive en toi toutes ces passions constamment?
Toi?
Oui.
Si tu ravives mes passions?
Oui, oui, en parlant d'ufologie, bien sûr.
T'es pas mon style, mon genre, pas en tout, Yannick.
Bon.
Je regrette.
Je m'attendais à une réponse complètement différente, mais t'aimes ça, parler d'ufologie, puis ça s'entend. Puis merci beaucoup, les auditeurs. T'apprécies chacun de tes passages, j'en entends parler. Des fois, il y a des gens qui sont super heureux, puis des fois, il y a des gens qui disent « Jean Cazot, encore? Pourquoi? »
Eh oui, parce qu'il est bon.
Il est bon. Il fait réagir puis il laisse personne indifférent. Jean, ta fameuse chaîne YouTube que tu as commencé, tu es déjà rendu à plus d'un millier d'abonnés. Tu as quoi, une 27 vidéos à peu près de fait. J'ai resté bête un peu quand je t'ai vu faire ça. Je me suis dit, c'est-tu son leg qui veut nous laisser? Parce que t'as fait des livres, t'es auteur.
Ouais,
moi, j'ai tous tes livres, mais quand j'ai vu ta chaîne YouTube, je me suis dit, il veut-tu nous laisser de quoi? C'est-tu un signal qu'il nous envoie?
Bon, je vais te répondre à ça bien clairement. Oui, t'as raison, j'ai 25 livres de publiés. Je suis l'auteur, toutes langues confondues, qui a publié le plus d'ouvrages sur la question dans le monde. J'ai pas dit que j'étais celui qui en avait vendu le plus, mais je suis celui qui en a publié le plus. Il y a personne d'autre qui m'accote là-dessus. Mais là, c'est terminé. Le seul livre qui est en marche présentement, c'est pas ici, c'est à Paris. C'est « Les ovnis viennent d'un autre monde » chez JMG. Il est en France, il est en Europe seulement, il n'est pas distribué au Québec. Éventuellement, peut-être, c'est pas sous mon contrôle, c'est celui de mon éditeur. C'est le dernier livre que j'écris. C'est terminé, je n'en fais plus. Pourquoi? Parce que l'industrie du livre post-pandémique a perdu complètement la tête. Là, ça ne marche plus, ça. Et moi, je refuse de voir mes livres qui se vendaient à 19,95, 24,95 pour 300, 350 pages se vendre maintenant à 30,95 pour 200 pages, 220 pages. C'est du vol. Pas compliqué, là. C'est du vol. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que tout le monde, le gars qui coupe les arbres, la papetière qui fait le papier, il en veut un peu plus. Ensuite de ça, ben là, l'imprimeur, il en veut un peu plus. Là, il envoie ça chez l'éditeur qui en veut un peu plus, qui envoie ça chez le distributeur qui en veut un peu plus, chez le libraire qui en veut un peu plus, puis le consommateur, il aimerait bien ça en avoir un peu moins, mais lui, il paye le gros prix, comme d'habitude, puis c'est vrai pour ça, puis c'est vrai pour bien d'autres affaires, incluant les tomates, puis l'épicerie, puis tout le reste. Alors, c'est rendu ridicule. Le résultat, c'est que l'auteur, lui, ne fait pas plus d'argent. Il reste avec son petit 10 % traditionnel, mais 10 % d'un total de vente bien inférieur parce que les jeunes refusent d'acheter un livre à 30 $. Puis je ne les blâme pas. Alors, je ne le fais même pas, moi. Moi, je trouve qu'un petit livre de 200 pages à 30 $ me fait voler. Alors, si j'ai un budget de livre, moi, choisir en maudit. Tu sais, je vais choisir. Alors, j'ai décidé d'arrêter. Et en faisant ça, c'est une décision que j'ai prise il y a un bout de temps, ça, pendant que j'étais en croisière, parce que moi aussi, j'ai fait une croisière récemment, j'ai eu le temps de relaxer, de m'affaisser professionnellement parlant, de me foutre du monde entier pendant 2 mois de temps dans des pays de rêve. Alors là, ça a fait un bien énorme, ça. Moi, là, it cleanse me, tu sais, ça m'a nettoyé, si on dirait. Ça a eu un effet salvateur fantastique. Et comme mais moi, je suis pourri en informatique, je suis pas bon. Je maîtrise assez bien certaines applications, là, c'est moins pire qu'avant, mais il y a un bout, moi, quand on me dit « je vais t'appeler sur Messenger », moi, j'attendais en bas à porte que le facteur passe. Tu sais, je me suis dit,
Je me souviens très bien de ces moments-là incroyables que j'attendais devant mon ordinateur.
Oui. Ah oui, ah oui, moi, c'est épouvantable. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas à l'âge. J'ai 73 ans. Je ne suis pas de génération-là. Je n'ai pas été élevé. Ça, j'ai été élevé avec un boulier, calvaire. Fait que, regarde. Je suis pourri dans ça. Ma femme, au contraire, c'est à l'inverse. Ma femme, elle, c'est une architecte, une ingénieure, une geste en informatique. C'est bon. Mais...
À compense tes nombreuses failles.
Ben, celle-là, en tout cas. elle travaillait très fort. De sorte que quand elle revenait le soir de travailler, épuisée, vidée, il n'était pas question de faire quoi que ce soit sur l'ordi, là, tu sais. Fait que moi, là, l'idée de lui demander quelque chose dans ce domaine-là, ça a été non. Alors, quand elle m'a offert un site web, juste ça, oh mon Dieu, ben, j'étais content, tu sais. Puis encore là, des fois, j'ai de la misère avec, là, pas ma femme, mais le site. Et là, je suis tout le temps là, « Hélène, pourquoi il fait ça? » Puis gagnant, tu sais. Alors, j'ai été l'homme le plus surpris du monde, parce qu'il faut croire que la croisière, il a fait du bien, là aussi. Quand elle m'est revenue, puis qu'elle a dit, « Coudonc, dis-moi, le char traite depuis un bon bout de temps, je fais rien, je fais rien des puzzles, la journée longue, je suis écœuré. Qu'est-ce que tu dirais si on se partait une chaîne YouTube? » Là, j'ai dit, « Pourquoi tu parles en chinois? Parle-moi donc, tu sais. » Alors, elle dit, « Non, YouTube, tu connais ça. Alors, YouTube, ah, les affaires où il y a des niaiseries, là. » Tu sais, ça, c'est... Fait qu'elle me dit, « Oui. » Mais elle dit, « C'est à toi de mettre des affaires qui n'en sont pas. » Fait que, ah, j'ai dit, « Oui, ça, c'est un argument. » Fait qu'on a tout... Elle a tout organisé ça. Elle a tout arrangé ça. Elle s'est tout arrangé avec les logiciels, les abonnements-ci, puis les ça, puis comment aller chercher des illustrations. Puis, elle a travaillé, là, elle a étudié pendant... 2-3 semaines, là. Et puis là, elle m'est revenue avec ça, puis bang, elle a monté ça. Puis là, elle m'a dit, viens, je vais te montrer à cette heure comment en faire, comment en enregistrer. Elle m'a montré ça. J'ai scrappé les 5 premières. Puis après ça, j'ai recommencé. Puis là, j'ai compris comment ça marche. Puis comme j'en fais presque tous les jours, bien là, j'ai plus besoin d'aide. Ça va très bien. Et j'en fais. Et là, on fait les short stories parce que Hélène me disait, YouTube, les gens aiment ça quand c'est court. Des short stories. Fait qu'elle dit, mais il y a du monde qui vont dire que c'est trop court, mais ça, tu plairas jamais à tout le monde sur YouTube, c'est impossible. Ils vont toujours dire c'est trop court, c'est trop lettre, c'est trop clair, c'est trop foncé, c'est trop ci. Il y a toujours du monde qui vont se plaindre. Occupe-toi pas de ça. C'est des short stories. Et après ça, on fera des entrevues de 30 minutes.
Okay. Fait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent.
Ah, c'est commencé.
Ah, c'est commencé. Parce que là, je vois du 5 minutes, du 6 minutes. Ah, tu vois, je vois une 36 minutes ici.
C'est ça. Ça, c'est des entrevues. Ça, c'est pas moi tout seul à l'écran pendant 6 minutes.
Non, parce que c'est
une entrevue.
Ça fait mal. Ouais.
Alors là, je fais une entrevue avec la personne, mais pas plus que 30 minutes parce que je fais sortir le jus au coton, bon débit, bonne vitesse, question-réponse, bang, 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 de sorte qu'après 30 minutes, là, t'as ce qu'il te fallait à savoir de cette personne-là. Et il m'a dit, ça marche. Ça marche très bien. Parce que j'ai mon expérience d'animateur, tu sais, et d'intervieweur, j'ai fait ça toute ma vie. Alors là, moi, mes émissions, je faisais jamais d'entrevue avec un gars, moi, d'une heure, 1h30, là. Moi, là, j'avais une émission d'affaires publiques. Moi, je faisais des émissions avec des entrevues de 15-20 minutes, top. Des fois, une demi-heure, mais ça, c'est exceptionnel. Alors, j'ai acquis rapidement la façon de plugger le gars puis d'avoir les réponses que je veux assez vite, merci, puis envoie en braille, tu sais. Alors, je fais ça avec, et ça marche très bien, ça donne des entrevues dynamiques, tu perds pas de temps, et c'est le matériel qui est là, c'est le matériel que j'ai colligé depuis les 57 dernières années. Alors, je ramasse tous mes souvenirs, toutes mes enquêtes, tous mes travaux, toutes mes réflexions, et je travaille là-dessus. C'est sûr que c'est des textes parfois de 2500, 3000 mots. Fait que ma job, qui est pas, c'est long. C'est long. C'est 30 heures semaine à deux, hein, cette affaire-là, là, la chaîne. Là. Parce qu'il faut que je résume ça en 500-600 mots. C'est de l'ouvrage. Moi, dire, il faut que ça reste cohérent. Il faut que ça soit. C'est pas juste couper, couper, couper. Il faut couper aux bonnes places et faire quelque chose de bien. Alors, c'est de l'ouvrage. Les entrevues, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus facile. Ça dure une demi-heure, ben ça prend une demi-heure. Tu sais. Après ça, Hélène est au montage. Ça, c'est long, très long, parce qu'elle veut de la qualité dans les sous-titres. Parce que quand YouTube se mêle de faire les sous-titres, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça marche au son. C'est comme un élève de quatrième année. Tu sais.
Il faut qu'elle répare ça. Mais moi, il y a des sujets là, que tu abordes que je trouve fantastiques. Là. J'en ai écouté quelques-uns de tes vidéos.
Tout y passe.
Rencontre du quatrième type, j'ai adoré. J'ai aimé la fascinante Atlantide aussi. Expérience de mort imminente. Je veux dire, c'est toujours intéressant, ça. T'sais. On sait pas ouais. qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. T'sais. Fait que des gens qui c'est ont ça. L'impression d'avoir vécu une expérience de mort imminente, ben ils peuvent témoigner ou encore toi, tu en genre. C'est le genre de sujet ouais. qui intéresse tout le monde. C'est intéressant, ça.
Oui, mais ce que j'ai fait, j'ai décidé de sortir à peu près 30 catégories. 30. Qui vont du monstre marin à la réincarnation en passant par les civilisations disparues, à peu près tout ce qui touche ce qu'on appelle l'ufologie, le paranormal, la métaphysique, le mystère, l'énigme, tout ça. J'ai travaillé dans ça pendant 57 ans. Je ne me réveille pas, là. Je ne suis pas un gars qui a décidé ça le week-end passé. Là, on va lire là-dessus, on va faire une chaîne YouTube. Là. Non, c'est mon vécu là, qui est là. Alors, j'y passe tout. J'ai fait des enquêtes sur tout. J'ai pas fait d'enquête sur l'Atlantide, on s'entend. Là. Mais j'ai fait j'ai traité tous ces sujets-là au cours des 60 dernières années. Ce qui fait que j'en ai du matériel, puis c'est du bon matériel, mais c'est dans tout. Alors, ces catégories-là, comme Henri et son histoire d'expérience de mort imminente, ouais, c'est ça. Ça, c'est une histoire, ça. Il va y en avoir d'autres dans cette catégorie-là, tu sais. Mais j'ai des catégories chouchou, tu sais. Alors, c'est sûr que sur le plan des ovnis, il y en a plus que sur le plan des monstres marins, mettons, tu sais. Mais j'en ai dans toutes, il y a toutes sortes d'affaires qui s'en viennent, puis des bonnes affaires. Il y a certaines short stories qui sont purement des réflexions, tu sais, sur, je sais pas moi, la vie après la mort, ou ben non, le destin, ou des choses du genre. Ça, je vais en faire aussi. Alors, il y a de tout. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas achalant. Tu sais, t'es pas poigné sur ton écran pendant des heures, là. Parce que je le sais qu'il y a personne qui va rester poigné sur ma chaîne pendant des heures. Ils vont regarder ce qui se passe. Ah, sur mon site, j'ai mis une table des matières. Alors, ça m'intéresse, ça. Tu sais, les détectives psychiques, les détectives au service de la police. Ah, ça, c'est intéressant. Ben, on va aller voir ça, tu sais. Là, il va. Si ça l'intéresse vraiment, là, vraiment, ben, dans ces 5 minutes-là, il y a toute l'information qu'il faut pour faire, lui, ses propres recherches. Comprends-tu?
Oui. Mais moi, j'adore ta chaîne YouTube. J'y ai passé quelques temps pour les besoins de l'entrevue. Mais si j'avais une suggestion à faire à Mme Hélène qui s'occupe de ta technologie et qui t'endure depuis plusieurs années, mettez ça aussi sur Spotify au niveau sonore. Parce que je l'écoute à la maison quand je travaille. Je me le mets de côté pendant que je travaille. Puis j'entends mon Jean Cazot me rapporter ses différentes enquêtes. Puis j'aime ça. Mais dans voiture aussi, je trouverais ça intéressant de t'avoir. Puis sur Spotify, tu peux le faire, c'est gratuit, puis tu rediffuses le sonore là-dessus. Là, si t'as pas trop de visuels à faire paraître, là, je veux dire, ça s'écoute très bien aussi. Là.
Ah, ben, je vais dire. Spotify, hein?
Prenez-le en note, Monsieur Cazot.
C'est pas une recette italienne, ça, là.
Spotify, dites ça, Spotify, Mme Hélène.
Ben oui, ben oui. D'accord, moi, il dire ça.
Hey, Jean, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. J'espère qu'on va se rejaser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tu sembles aller super bien, puis en te regardant en face, je sais que je t'ai encore pour à peu près 20 ans, fait qu'on a encore bien du plaisir à avoir.
Puis si les gens viennent sur ma chaîne, je vais leur demander une petite faveur.
Oui.
Une petite faveur. D'abord, c'est Jean Cazot officiel. Je dis ça parce qu'il y a du monde qui sont allés sur... j'ai fait une entrevue, quelqu'un est allé sur YouTube puis il a écouté des vieilles émissions de moi puis Mario.
Hey boy.
Il pensait que c'était ça parce que c'était sur YouTube, tu sais. Alors, je suis partout sur YouTube. J'ai accordé tellement d'entrevues.
Ouais, mais
et ma chaîne, c'est Jean Cazot officiel. C'est ça que c'est écrit.
Sur.
Et la petite faveur que je leur demande, s'ils aiment ça, bien, qu'ils s'abonnent. Parce que c'est important pour nous autres de faire ça. Et s'ils aiment ça, l'article, ils aiment ça, bien, ils mettent la petite main, le petit doigt là, qui fait comme ça, là, bien, qu'ils le mettent, qu'ils cliquent dessus. S'ils aiment ça. S'ils n'aiment pas ça, bien, c'est toi, ils n'aiment pas ça. Mais s'ils aiment ça, ben, c'est des clics, ça valorise la chaîne et ça lui permet de s'étendre davantage et d'entrer dans les algorithmes. On m'a expliqué ça, là, mais bref. Alors, c'est tout ce que j'avais à demander. C'est gratuit. Fait qu'en échange de la gratuité, c'est juste un petit clic. Puis le monsieur est content, puis la madame aussi.
Sinon, voilà. JeanCazot.com, ça fonctionne bien. Vous avez le lien YouTube, puis on a accès à tous les livres et des réflexions profondes sur l'ufologie.
Oui, absolument.
C'est un plaisir, je te souhaite de passer une agréable...
C'est déjà fini?
Ben oui.
Ça va vite.
Hein? Je te souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'aux auditeurs. Puis nous, ben, on s'en jase demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Salut, Jean!
Salut!
Marceau
le soir. À Boulevard 102.1, on aime le rock.
Ben, okay.
Pis le bon rock, celui qui perdure dans le temps, ça se fête. On célèbre donc un grand band, pis